Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous allons nous intéresser à la question des images et de leur vénération au sein des quatre traditions des églises orientales orthodoxes. Je veux parler de l'église et de la tradition syriaque, de la tradition arménienne et de la tradition copte et éthiopienne. Je suis en compagnie de Christine Chaillot ce matin, qui vient de sortir un petit ouvrage dédié à cette question, rôle des images et vénération des icônes dans les églises orthodoxes orientales. Alors nous mettrons bien entendu les références de cet ouvrage sur le site internet de l'émission afin de vous le procurer, parce qu'il s'agit, je crois, bonjour Christine,
bonjour,
d'une première sur un sujet qui est au fond mal connu, celui de la vénération. Alors pour cadrer tout de suite, pour que nos auditeurs comprennent bien, vous parlez des églises orthodoxes orientales, mais non point celles qui sont dans la tradition byzantine. Donc ouais, on ne parle pas de l'église grecque, voilà, qu'on appelle communément.
Effectivement, ce sont des églises qu'on a appelées, de monophysites, mais elles-mêmes refusent cette appellation. Dans les dialogues théologiques officiels aujourd'hui, on les appelle les églises orthodoxes orientales, ou aussi non chalcédoniennes, parce qu'elles avaient refusé justement la terminologie christologique de Chalcédoine, du concile de Chalcédoine en 451.
Alors sans trop entrer vite dans des questions théologiques, parce qu'on gardera ça un petit peu pour la fin par rapport à l'évolution de notre émission, vous êtes vous-même spécialiste un petit peu de ces questions, du dialogue interreligieux surtout qui vous concerne particulièrement. Vous avez pris votre bâton de pèlerin pour rassembler ces communautés du mieux que vous pouviez, et vous avez pour ce fait publié beaucoup de livres depuis toutes ces dernières années. Vous étiez déjà venu dans l'émission. Mais pourquoi précisément cette question de la vénération des images ou des icônes?
Oui, je me suis intéressée à la vie et à la spiritualité de ces églises, qui sont des églises très anciennes, apostoliques. Et je me suis aussi intéressée justement au niveau théologique du dialogue avec ces églises orthodoxes orientales. Et donc justement... on connaît très bien le fait que dans le monde byzantin orthodoxe, on a énormément d'icônes. Il y a eu d'ailleurs des querelles à ce sujet en ce qui concerne la vénération des icônes. Et ce sujet a été finalement, la question a été résolue lors du concile de Nicée II en 787. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on voit que dans ce monde non chalcédonien, on n'a pas connu cette question de cette dispute en ce qui concerne les icônes et leur vénération. Et c'est un sujet, effectivement, qui est très mal connu. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé de le présenter. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver dans les textes de ces quatre traditions des exemples qui prouvait qu'il y avait non seulement des icônes, mais des peintures murales. Et effectivement, on connaît aussi le fait qu'il y a de très nombreuses enluminures, c'est-à-dire les peintures qui sont représentées dans les manuscrits. Et donc, sur cette base, je pensais que c'était intéressant de faire une espèce de preuve de la présence des images, des icônes, des peintures murales dans les quatre traditions et à travers les siècles. Donc, c'était le début de mon travail.
Alors, nous sommes à l'est de Byzance, nous sommes au-delà du Bosphore, de Constantinople et du limès de l'Empire romain d'Orient, où, comme vous l'avez rappelé, il y a eu cette crise iconoclaste qui a profondément bouleversé les vénérations, le rituel même de l'Église. Et ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'on ne sait pas trop, au fond, de quelle manière ces autres églises d'Orient ont été affectées ou pas par cet iconoclasme byzantin.
On n'en parle pas, et on a des textes très anciens, par exemple la grande historienne d'art Serarpie d'Hernersessian. Pour la tradition arménienne, elle a un article très intéressant sur les images dans la tradition arménienne au 7e siècle, c'est-à-dire très tôt, n'est-ce pas? Et donc, par ce genre de texte, on peut prouver que il n'y avait pas de problème en ce qui concerne les images et aussi la représentation du Christ dont on reparlera à la fin de l'émission.
Alors peut-être un petit mot sur cet iconoclasme. Qu'est-ce qui gênait théologiquement ?
Eh bien, effectivement, on ne peut pas, en ce qui concerne le Christ en particulier, il est vrai Dieu, vrai homme, sans mélange, sans confusion. Donc, il est difficile de trouver un équilibre dans cette divino-humanité et comment la représenter et comment ne pas tomber dans une idolâtrie, puisqu'effectivement, on sait bien que dans le judaïsme et évidemment dans l'islam, il n'est pas question de représenter Dieu. Dans le christianisme, dans le monde byzantin, mais aussi justement dans ce monde des églises orientales, on a représenté le Christ parce qu'il s'est incarné.
La question se nourrit, votre question, votre grande interrogation se nourrit aussi d'un constat, c'est que nous connaissons encore une fois les icônes dans la tradition byzantine, c'est même l'un des vecteurs les plus importants de cette foi, mais nous connaissons beaucoup moins les icônes, et c'est là où vous allez nous expliquer qu'en fait vous ne parlez pas que des icônes dans les traditions orientales, on connaît rarement d'icônes syriaques, rarement d'icônes arméniennes, ou d'icônes anciennes.
Donc effectivement, on peut dire que c'est dans le monde copte qu'on trouve le plus grand nombre d'icônes, parce que tout le monde qui aura visité des églises et des monastères en Égypte et enfin en diaspora pourra constater le grand nombre d'icônes qui y sont placées, en général aussi près des reliques. Donc il y a une vénération aux saints, en général des saints égyptiens, mais il y a d'autres saints également qui sont vénérés. Et ça ne pose aucun problème ni chez les Coptes, ni chez les Éthiopiens. Dans le monde arménien, justement, et dans le monde syriaque, on n'a pas d'icônes à proprement parler, c'est-à-dire des images qui sont peintes sur bois. Quoique j'ai trouvé, justement, une référence dans une lettre de Maurice de Horen, un Arménien, qui parle d'une icône peinte sur bois, n'est-ce pas ? Et c'est là tout l'intérêt, je pense, de faire des recherches dans les textes pour trouver ce genre de détails très précis. Mais, comme je l'ai dit, chez les Syriaques et les Arméniens, les peintures ont existé, on le sait, on le voit par exemple dans l'église ancienne de la Croix sur l'île d'Artamar, sur le lac de Van, dans la Turquie orientale actuelle. Et on peut bien imaginer, on voit parfois des restes de peinture dans des églises anciennes, qu'elles soient arméniennes ou syriaques. Helga Anschutz, justement, qui a très bien connu le monde syriaque du Tour Abdin, encore une fois dans la Turquie orientale actuelle, parle de certains fragments. Donc, mais ces peintures ont été détruites à travers les siècles et sans doute sous l'influence de l'islam. Et donc, on trouve des peintures qui sont plus modernes. On trouve énormément de tableaux. Dans les endroits tels que Jérusalem ou Alep, où les peintres d'icônes et autres étaient très nombreux. Alors, par exemple, dans l'église arménienne d'Alep, il y a les murs foisonnent de peintures qui représentent le Christ, la Vierge et les saints. Et de toute façon, que ce soit dans les églises syriaques ou arméniennes, on a toujours une représentation de la Vierge et du Christ au-dessus de l'autel, n'est-ce pas ? Et on utilise les images aussi tout au long du cycle liturgique annuel, et en particulier avant la fête de Pâques, pour les rameaux, etc.
Mais Christine Chaillot, ne faut-il pas faire une différence entre des fresques, disons, décoratives, qui sont à l'intérieur des églises, qu'elles soient syriaques et plus rarement syriaque en fait, et plus largement arménienne, et la vénération en tant que telle d'une image, oui, au sens d'une icône.
Bien sûr. Alors il fallait évidemment d'abord faire cette démonstration de l'iconographie en général, donc comme je l'ai dit, par l'intermédiaire des icônes, des peintures murales, etc., des enluminures justement, qui souvent imitent l'iconographie traditionnelle, n'est-ce pas ? Donc, puisqu'on a un manque au niveau des icônes et des peintures murales, donc il faut voir ce qu'on trouve au niveau des enluminures. Mais je le répète, on trouve des exemples dans les textes des traditions syriaques et arméniennes.
Alors je suis en compagnie ce matin, pardon, de Christine Chaillot, rôle des images et vénération des icônes dans les églises orthodoxes orientales, basée sur un petit livre admirable, absolument clair, précis et bien illustré. Je vous ai interrompu, pardon Christine, vous alliez me dire quelque chose.
Non, justement, je présente dans ce livre aussi les quatre prières qui sont utilisées dans les quatre traditions, donc je répète, copte, syriaque, éthiopienne, arménienne. Il est évident que si on a des prières pour bénir ou consacrer les images, que ce soit des icônes ou des peintures murales, on ne va pas composer des prières si on ne va pas les utiliser pour bénir, n'est-ce pas, ces images. Donc, dans la tradition copte éthiopienne et arménienne, cette consécration se fait avec du miron, c'est-à-dire de la même manière que lorsqu'on bénit ou on consacre l'autel d'une église. Chez les Syriaques, il est précisé qu'on utilise de l'huile et pas du miron, qui est une huile consacrée. Et donc, je pense que ça, c'est un élément supplémentaire pour justement argumenter le fait que les quatre églises, les quatre traditions avaient des images et des peintures murales. Et j'ai vu moi-même, d'ailleurs, par exemple, il y a quelques années, le patriarche syriaque Zaka, que vous avez connu vous-même, qui bénissait les peintures dans le monastère syriaque orthodoxe qui se trouve aux Pays-Bas. J'ai vu aussi des évêques coptes bénir les peintures dans des nouvelles églises coptes, que ce soit en Égypte ou en diaspora. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est ancien, qui n'est plus d'actualité. Il est vrai que ça ne se fait pas dans ces églises pour les icônes, comme on le fait dans le monde largement appelé byzantin, qui inclut les Russes, les Grecs, etc. Mais je pense que, voilà, on doit aussi prendre en considération ces prières que j'ai publiées dans ce livre. Et c'est des prières d'ailleurs qui sont très intéressantes aussi au niveau spirituel, parce qu'elles parlent toutes d'une chose, c'est le salut. Et alors au fond, pourquoi est-ce qu'on vénère des icônes ? Il ne s'agit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en aucune manière d'idolâtrie, mais ce sont des images qui doivent, d'une manière tout à fait pédagogique, n'est-ce pas, que ce soit les images du Christ, des fêtes annuelles, liturgiques, de la Vierge ou des saints, toutes ces images sont là pour nous rappeler dans notre vie chrétienne que finalement, nous montons par la prière devant les icônes aussi, ou lorsqu'on allume des cierges, lorsqu'on prie devant ces images. Tout ça doit nous porter dans notre vie spirituelle pour aller vers le but ultime qui est le royaume des cieux, qui est donc en fait ce qu'on appelle dans la vie chrétienne le salut. Et tout ça est bien expliqué justement dans ces prières des quatre traditions.
Alors Christine Chaillot, avant d'aller sur un aspect peut-être un peu plus théologique de cette démonstration, si je comprends bien, c'est que nous avons des rituels, nous avons des récits de vénération, mais nous avons un petit peu ce lien manquant qui serait ces icônes portatives, voilà, qui sont tellement présentes dans d'autres traditions. Et on sait ce qui s'est passé ou pas en quelque
Je le dis, sans doute, on voit d'ailleurs très bien dans les pays du Moyen-Orient que très souvent les visages ont été abîmés, pour ne pas dire détruits, sur les peintures murales. Donc, on voit bien là une réaction, disons, de l'islam qui n'accepte absolument pas qu'on fasse des représentations humaines, n'est-ce pas ?
Alors, sur l'aspect théologique, maintenant, on évoquait un mot important en introduction, qui est le mot monophysisme. Alors, on en parle beaucoup, on en a... ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, quelle est la signification par rapport à cette question ?
Alors, j'ai expliqué dans plusieurs de mes livres, et justement, un livre par paru en 2016 à Volos sur la christologie de Calcédoine pour bien expliquer que ces églises ne sont pas monophysites. Elles croient que le Christ est vrai Dieu et vrai homme sans mélange et sans confusion. Et justement, si vous voulez, le fait que toutes ces églises représentent le Christ dans son humanité, sur ces images, peintures et icônes, montre bien, c'est une autre manière de prouver que ces églises ne sont pas monophysites. Je rappelle que le monophysisme, le chef, si j'ose dire, du monophysisme, c'était un moine qui s'appelait Eutychès au 5e siècle, et pour lui, la nature humaine du Christ avait été absorbée par la divinité du Christ. Donc, si vraiment ces églises étaient monophysites, si elles croyaient vraiment que l'humanité du Christ était absorbée par sa divinité, elles n'auraient jamais représenté le Christ en tant qu'homme sur des images, des peintures et des icônes. Et c'est cette conclusion que je présente dans mon livre.
Et le malentendu vient d'où, en fait? Alors, pourquoi il y a eu cette accusation, d'une certaine manière?
Eh bien, parce que on a pensé que la formule de Saint Cyrille d'Alexandrie, qui parle d'une nature de Dieu, le Verbe incarné, donc une nature, on a pensé que on l'a remplacé par ce mot monophysisme. Mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une nature composée, c'est-à-dire composée de la divinité et de l'humanité, comme le dit la formule de Saint Cyrille, parce qu'il dit de Dieu le Verbe, c'est la divinité, et incarné, on parle de l'humanité en Christ. Donc, dans les dialogues théologiques officiels aujourd'hui, on a compris qu'il s'agissait d'un malentendu terminologique sur ce mot miaphysis, une nature en grec. Et donc, dans les milieux théologiques, on ne parle plus de monophysisme. Mais malheureusement, il y a d'autres, justement les journalistes ou même des historiens d'art continuent à utiliser cette terminologie. Et je me bats depuis de nombreuses années pour qu'on s'informe par rapport au dialogue théologique officiel et qu'on utilise maintenant cette terminologie en parlant des églises orthodoxes orientales et non plus des églises monophysites.
Alors Christine Chaillot, c'est pour ça que nous vous apprécions beaucoup à Chrétiens d'Orient, c'est que vous menez avec votre bâton de pèlerin cette lutte justement pour sortir ces églises orientales de leur niche monophysite, disons cet héritage des 18e et 19e siècles.
Oh, beaucoup plus, parce que c'est depuis le 5e siècle. Il y a 16 siècles de malentendus à dépasser, et c'est ça qui est lourd. Mais je pense que justement, par des écrits, par des émissions de radio et autres, on se doit d'informer les gens.
Où en sommes-nous du dialogue interreligieux entre ces églises? Est-ce qu'il y a, vous suivez ces questions c'est une autre partie de votre activité, il y a la recherche, il y a les voyages, mais vous participez à ces rencontres interreligieuses?
C'est-à-dire, donc, il y a des dialogues bilatéraux qui existent entre ces églises orthodoxes orientales avec les églises orthodoxes dites byzantines, avec l'église catholique et avec l'église anglicane. Donc, cela se fait au cours des années. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le dialogue, ce que j'appelle pratique, c'est-à-dire que les gens se rencontrent, qu'ils discutent entre eux, que ce soit le clergé, que ce soit évidemment au niveau des patriarches, des évêques, mais aussi au niveau des paroissiens. Et là, je pense qu'il y a tout un travail à organiser, et c'est ce que j'essaye de faire parallèlement, à organiser des rencontres à côté justement du fait que j'essaie d'écrire certains textes qui parlent de ces églises orientales qu'on a trop longtemps oubliées et qui ont énormément à nous apporter justement au niveau spirituel, au niveau de leurs textes, patristiques, liturgiques. Et je pense que on doit vraiment maintenant travailler sur ces questions, y compris sur la question dont nous parlons aujourd'hui, et qu'il faut travailler sur les textes, parce que les textes sont des preuves tangibles. On ne peut pas les discuter, et je pense que c'est le meilleur moyen pour convaincre ceux qui ne sont toujours pas convaincus.
Au moment des grands dangers, au moment de cette vague d'inquiétude qui touche beaucoup, beaucoup de ces chrétiens d'Orient, vous répondez par la recherche, vous répondez par le texte, par l'éducation peut-être ?
évidemment par l'éducation, parce que on ne peut pas accepter certaines situations. Vous faites allusion maintenant aux chrétiens au Moyen-Orient actuel, et je pense que leurs problèmes sont loin d'être résolus, et que là aussi on doit trouver des moyens de montrer notre solidarité.
Et une solidarité qui se manifeste par un accueil, par une curiosité, par une écoute.
Oui, sans doute, l'accueil était indispensable quand il y avait vraiment des combats. Je pense que c'est beaucoup plus subtil aujourd'hui, par exemple, en Égypte, étant donné la situation actuelle. On ne sait pas ce qui va s'y passer. Et je pense que ça doit passer effectivement par la connaissance mutuelle avant tout.
Quel est votre prochain projet, Christine Chaillot ?
Ah, je m'intéresse beaucoup toujours à la tradition, par exemple, orale, à l'éducation orale chez les Éthiopiens. Et c'est-à-dire que on apprend tout ce qu'on apprend dans nos facultés de théologie en Occident, on l'apprend par cœur. Donc, ça doit passer par le cœur, n'est-ce pas ? Et je pense que c'est quelque chose qui est unique aujourd'hui dans la grande tradition chrétienne et les traditions orientales. Donc, je suis très intéressée par ça, entre autres.
Images et vénération des icônes dans les églises orthodoxes orientales avec Christine Chaillot. Merci.
Merci à vous.
Un petit livre que vous pouvez trouver en tout cas à Paris à la librairie La Procure et par son réseau de distribution. Un livre qui est publié aux éditions Lit Verlag. Voilà, mais nous mettrons les références sur le site internet de Chrétiens d'Orient. Je tiens à remercier Dany Journaud, Pierre Monteil et Anne-Catherine Lechard pour la réalisation de cette émission. Avant de retrouver le service protestant, je me permets de vous dire que vous pouvez retrouver l'émission en balado-diffusion ou podcast sur le site de France Culture dans l'onglet Chrétiens d'Orient. Bon dimanche à tous. Merci.